Bonsoir et merci de suivre Radio Capi ce vendredi 25 avril 2014 pour cette émission Tribune de la Presse. Deux sujets sont au centre de notre débat. Il s'agit de la suspension de toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur sur décision du Conseil des ministres mardi dernier. Raison avancée, mettre fin à la nouvelle crise en gestation au sein de l'Assemblée et du gouvernement de l'Équateur. Comme deuxième sujet, nous parlerons du bilan d'une trentaine de morts et 55 blessés graves survenus suite au déraillement d'un train de marchandises à Kamina, au Katanga. Pendant ce temps, ce qui vaut, le naufrage d'une barge de cette société, la SNCC, occasionne la perte d'une centaine de tonnes de marchandises. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Baudouin Saïli Mbalanga. Il est éditeur du journal La Chopo qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Baudouin Saïli Mbalanga.
Bonsoir chers confrères, bonsoir à tout le monde.
Nous sommes également avec Joël Kadindanga. Il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadindanga.
Bonsoir confrères et bonsoir à l'aîné Baudouin.
Et nous sommes également avec Edouard Di Chitenge, journaliste, reporter et directeur de la station de radio-télévision Kasaï Horizon, émettant depuis Kananga au Kasaï Occidental. Bonsoir Edouard Di Chitenge.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les co-débatteurs ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Kasaï.
Bienvenue à tous dans cette émission. La suspension de toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et le déraillement d'un train de marchandises de la SNCC à Kamina au Katanga, suivi du naufrage d'une barge de cette société, occasionnant la mort de plusieurs personnes et la perte d'une centaine de tonnes de marchandises, figure parmi les sujets largement commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Côté.
Bonsoir. La suspension des activités à l'Assemblée provinciale de l'Équateur a fait la une des journaux qui nous cette semaine. Forum des As d'indiquer d'entrée des jeux qu'il s'agit d'une décision du Conseil du gouvernement tenue mardi à Kinshasa. Raison avancée rapporte le journal, citant le compte-rendu officiel publié à ce sujet, et je cite, « C'est pour des raisons d'ordre public et aux médias de poursuivre cette mesure fait suite à la nouvelle crise en gestation au sein de l'organe délibérant et exécutif de la dite province. » La référence plus détitrée sur le même sujet, un député de la majorité constate la violation de la Constitution. L'Avenir de son côté renseigne que le ministre de l'Intérieur a été chargé de suspendre sans délai les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Au quotidien, d'ajouter que c'est une mesure qui restera d'application jusqu'à la clarification de la situation à l'issue d'une mission gouvernementale emmenée sur place par le vice-ministre de l'Intérieur. Le déraillement d'un train de la SNCC près des Kamina a défrayé aussi la chronique cette semaine. L'excès de vitesse du machiniste et la surcharge serrer les causes du déraillement d'un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC en sigle le mardi 22 avril dans la localité de Katangola à environ une soixantaine de kilomètres de Kamina, explique l'observateur. Selon les experts, le train des marchandises surchargé roulait très vite dans cette partie de la voie ferrée où il y a une pente difficile à négocier. À en croire le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, mercredi 23 avril, une délégation gouvernementale composée du ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabangé, et son collègue de transport et voies de communication, Justin Kalumba, s'étaient rendus sur le lieu du drame afin de constater, en vue d'envisager une réponse à apporter aux victimes de cet accident ferroviaire, précise la tempête de tropique. Des sources gouvernementales indiquent également qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de l'accident, selon toujours ce quotidien. Le potentiel, pour sa part, constate que la RDC tend à ressembler à un bateau à la dérive et qui prend l'eau de tous côtés. Crash, naufrage et déraillement se répètent à un rythme qui rappelle les films western du Nouveau Monde, écrit le quotidien. Au regard des morts en série que l'on enregistre, les voies de communication en RDC ne rassurent pas du tout, affirme le journal. Ce journal estime qu'il est temps d'activer le système national d'alerte des catastrophes s'il en existe un pour prévenir le pire. Les obsèques du patriarche Justin-Marie Bumbuko, la nouvelle vague des Congolais de Kinshasa expulsés des Brazzaville, sont là d'autres sujets qui ont fait aussi l'actualité cette semaine.
Merci Kéline Côté, Baudouin Saïli Mbalanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Chopo, un journal qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par par la poursuite de la vague d'expulsion des Congolais de la RDC du Brazzaville. On a déjà abordé ce sujet, mais apparemment votre appel n'a pas été entendu.
Non, je risquais de dire que mon appel a été attendu pour la simple raison que Madame Antoinette Sassou a traversé le fleuve pour venir assister aux côtés de la première dame de la République de Mokoto au deuil qui nous a frappé ici par la disparition de notre patriarche Bomoko. Maman Sassou a été ici, mais je crois que quelque part mon appel a été attendu. Que ça ne tienne, hein. Hier soir, j'ai suivi à la radio nationale congolaise l'interview que le président tanzanien, son excellence Kikwete, a accordé à un confrère en Swahili. Le président tanzanien a fait allusion à la cohabitation pacifique entre la RDC et la Tanzanie.
Brièvement, là.
Non, c'est important. Lorsqu'on dit cohabitation avec les pays qui nous entourent, on peut prendre un exemple, la cohabitation entre la RDC et la Tanzanie, pour dire que le président tanzanien reconnaît la force de frappe des militaires FARDC au front. Voilà la cohabitation pacifique. Le président dit, entre lui et le président Kabila, il n'y a pas de nuages. Voilà la cohabitation pacifique. Nous voulons que... On ne déborde pas sur ce dossier du Congo-Brazzaville. Hein. Franchement, nous sommes liés dans des conditions ancestrales. C'est pas aujourd'hui. La fois parce que j'ai dit, il y a des Congolais, nés Congolais ici et là-bas.
Merci.
Des Bangas nés ici et là-bas. Nous voulons franchement que le président Sassou Nguesso prenne le devant pour arrêter l'hémorragie.
Merci. Joël Kadendanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News. L'actualité a été aussi dominée par la célébration hier, jeudi 24 avril, de l'anniversaire de la démocratisation de notre pays, la RDC. Démocratisation qui a été lancée, bien sûr, depuis 1990 par feu le maréchal Mobutu. Que vous inspire cette date, bien sûr?
24 ans après, il y a lieu de noter qu'il y a pluralisme politique, pluralisme syndical, pluralisme médiatique, mais tout cela ne nous conduit pas à la démocratie qui reste toutefois un idéal, mais il faut reconnaître que dans ce parcours, il y a eu une parenthèse malheureuse, c'est l'AFDEL, qui est venu en 97 pour stopper, interrompre un processus d'ailleurs dans lequel mon aîné à côté, auquel vous m'avez frotté ce matin, avec qui j'ai beaucoup de révérence, ils avaient déjà atteint un niveau de paroxysme pour vraiment atteindre la démocratie lorsque l'AFDEL est venu interrompre, n'est-ce pas, les activités politiques jusqu'à 99, lorsque M. Laurent Désiré Kabila va rouvrir encore la scène politique congolaise, mais au moins il faut reconnaître que depuis 1999, il y a encore beaucoup d'avancées et qu'il faut remettre non seulement sur le dos de Joseph Kabila Kabange comme président de la République, mais aussi sur les quelques rébellions provoquées par le Rwanda, l'Ouganda, MLC et le RCD qui ont tenté encore de nous remettre dans ces mouvements, malheureusement, que certains caciques veulent nous remettre à la dictature.
Edouard Diye Chitenge, je rappelle que vous êtes journaliste, reporter et directeur de la station du radio-télévision Kasaï Horizon, émettant depuis Kananga au Kasaï Occidental. Quels sont les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine à Kananga au Kasaï Occidental?
C'est d'abord la célébration de la journée mondiale du paludisme dans cette province où 6 des 44 zones ont connu des cas d'épidémie en l'année passée, 2013. Un seul message est ressorti dans toutes les allocutions, celui d'interpeller la communauté à lutter contre cette pandémie grâce aux moyens à sa portée, la prévention qui passe par l'assainissement du milieu. La stabilisation du fichier électoral et stabilisation de cartographie opérationnelle au Kasaï central, le secrétariat exécutif de la CENI a organisé le jeudi une matinée d'information sur l'importance de ces opérations au profit des journalistes de la ville de Kananga. L'actualité, c'est aussi cette annulation depuis le mercredi de la vie d'imposition d'office contre l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental et la suspension par celle-ci de l'interpellation de la Direction provinciale des impôts Kasaï occidental. Vous savez, désormais, la DPI s'engage à ne plus poursuivre l'Assemblée provinciale pour l'impôt professionnel sur la rémunération, laissant qu'une bonne interprétation des textes soit faite à propos du redevable de JPR des membres des institutions politiques. À Chikapa, pendant ce temps, c'est cette cacophonie au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'Escrétaire fédéral tient à la prestation des deux de ses membres du comité, du reste désavoué par les combattants. Le fédéral déchu campe sur sa position, ce qui soulève les esprits des combattants. Et enfin, c'est cette tempête apaisée entre la direction des recettes du Kasaï occidental et la région nord de la SNCC, la régie financière provinciale a levé sa main sur les comptes de la SNCC. Un compromis est désormais trouvé pour que tous les terrains battus et non battus de cette entreprise qui ne relève pas directement de l'exploitation soit assujetti à l'impôt foncier.
Merci Edouard Dié pour ce condensé et nous abordons directement notre premier thème de ce soir. Suspension mardi dernier de toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La décision a été annoncée par le porte-parole du gouvernement central à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Joseph Kabila. Pour le gouvernement, c'est pour mettre un terme à la crise en gestation au sein de cet organe de la province de l'Équateur. On écoute Lambert Mende au micro d'Innocent Olenga.
Il s'agit d'une décision prise pour des raisons d'ordre public. Il y a menace à la sécurité publique, à l'ordre public, c'est une mesure de police à ceux qui veulent s'écarter de la loi dans la gestion des relations internes au sein des institutions provinciales.
Mais est-il vraiment de la compétence du Conseil des ministres de suspendre les activités d'une assemblée provinciale? Parce que nulle part dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, il n'est aucunement fait mention de cette prérogative.
Pensez-vous que lorsque vous provoquez des désordres, une bagarre, au cours d'une réunion, il faut que ce soit inscrit dans la Constitution, que le gouvernement peut mettre fin à une bagarre pour que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je vous ai dit que le gouvernement est comptable de l'ordre public. L'ordre public est menacé, le gouvernement prend des dispositions en rapport avec l'ordre public. Alors, ce que vous me dites là n'a rien à voir avec ce dont je parle.
En réaction, cette décision du gouvernement surprend certains députés, parmi lesquels le député national Henri Thomas Lokondo, élu de Mbandaka. Il estime que cette décision viole la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces. Henri Thomas Lokondo est au micro, une fois de plus, d'Innocent Olenga.
Sincèrement, j'ai été surpris d'entendre cette décision du Conseil des ministres, parce que sur le plan strictement juridique, je doute fort que le gouvernement central puisse avoir le pouvoir de suspendre les activités d'une assemblée provinciale. Parce que la Constitution qui a consacré le régionalisme politique ne reconnaît seulement et uniquement au chef de l'État le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale. Et la loi sur la libre administration des provinces et d'autres lois même sur les entités territoriales décentralisées ou déconcentrées ne le disent pas non plus. Je crois que le gouvernement central est allé là un peu vite en besogne et a mis la charrue devant les bœufs, parce que même sur le plan du droit administratif, vous ne pouvez pas sanctionner une personne, un organe ou une institution en disant je le fais parce qu'il y a un conflit en gestation, donc un conflit qui n'est pas encore né, donc il n'y a pas encore une faute. Je ne justifie rien parce que je ne connais rien, mais ici j'argumente sur le plan de droit. On ne peut pas dire qu'on suspend parce qu'il y a un conflit en gestation. Si c'est ça la prévention de la gouvernance, c'est inédit et atypique.
Baudouin Saïd Mbalanga, comment est-ce que vous analysez cette décision prise par le gouvernement congolais de suspendre les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Cher confrère, merci beaucoup pour la question. Remontons un peu l'histoire de ce pays. Moi, je suis parmi les témoins de la vie politique de la République démocratique du Congo depuis presque 20 ans. À la Conférence nationale souveraine, nous sommes en 91, on devrait élire le président de la Conférence nationale souveraine. Alors, quelques politiques se sont arrangés pour aller prendre Monseigneur Mosengo, les ramener directement sur le fauteuil du président de la Conférence nationale souveraine. Et Monseigneur de réagir. Et honorable conférencier, ce n'est pas ça la démocratie. Nous devons respecter la démarche telle qu'arrêtée par la loi. La démarche, c'est quoi? C'est le bureau provisoire. Organise les élections, on élit le président de la Conférence nationale souveraine démocratiquement et tous les bureaux et on avance. Le fait de me prendre et de tenter de me poser, Mosson a dit, on ne peut pas évoluer des irrégularités en irrégularités. Je n'ai jamais oublié cette phrase-là, ça fait aujourd'hui 20 ans. Alors aujourd'hui, lorsqu'on prend en compte la situation des assemblées provinciales de toute la République, mais il y a à boire à manger. Les députés provinciaux ont été élus pour 5 ans. Lorsque mon frère Lokondo parle du respect de la Constitution, mais le délai de 5 ans, c'est dans la Constitution. De 2006 à 2005, c'était le mandat des députés provinciaux. Après 2011, ils devraient déposer les armes et aller vers le peuple pour tenter d'avoir un autre mandat.
Ce qui n'a pas été fait.
Mais malheureusement, hier j'ai suivi le gouverneur de Nord Kivu qui dira que c'était un bonus politique. Mais alors, si c'est un bonus politique, conformez-vous à la loi. D'abord, ayez en tête que le mandat est fini.
nous évoluons dans les légalités. J'ai aimé aussi le gouvernement.
La loi précise qu'en fait, c'est une nouvelle assemblée provinciale qui vient à remplacer l'ancienne.
Mais c'est là où il y a un couac. Le législateur devrait confirmer que, après les mandats de 5 ans, il ne peut pas se passer 3-4 mois avant que les élections ne viennent pour remplacer ceux qui sont au pouvoir. Voilà, il y a des ratés dans le choix de la constitution quelque part. On a fixé le délai de mandat de 5 ans, mais après 5 ans, on dit qu'il faut attendre ceux qui vont venir. Mais on n'a pas précisé le temps qu'il prendra pour que les autres viennent. Voilà, c'est ça l'erreur aussi. Vous comprenez? C'est pour ça que parfois, lorsqu'on dit que, essayons de voir ce que dit la constitution, n'ayons pas peur de revoir ce que dit la constitution pour corriger certaines erreurs comme celle-là.
Donc, quelque part, vous pensez que le gouvernement a eu raison de suspendre l'Assemblée de l'Équateur?
Je voudrais même dire au gouvernement qui a été présidé par le président de la République. Le conseil des ministres ici tenu de règlement, le président Kabila était là, le maître des séances. Et je dis, le président, il est par la nation. Parce qu'il a pitié de ce monde-là. Vous êtes dans l'illégalité et vous haussez le ton pour déranger. Je complète avec un exemple simple. Hein. Quelque part dans une assemblée provinciale, il y a le bureau. Donnez-moi une minute. Il y a le bureau où le vice-président de l'assemblée provinciale suspend le directeur de cabinet du président de l'assemblée. Et le président de l'assemblée ne fait rien. Ensuite, après la suspension, il est rétrogradé. Il a quitté le directeur de cabinet du président de l'Assemblée pour devenir conseiller politique. Et là, le vice-président continue à m'attaquer le jeune conseiller politique en le suspendant. Alors, vous voyez des situations pareilles qui compliquent l'existence de la vie et le peuple s'étonne. Un instant, mon frère. Le peuple s'étonne du comportement de ceux qui disent « Je suis député ». On ne devait pas être député du néant.
Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Joël Kadindanga. Joël Kadindanga, comment est-ce que vous analysez cette décision du gouvernement central par rapport à l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Non, écoute, c'est une surprise très chère, confrère, lorsque l'on considère les dispositions légales et constitutionnelles qui gèrent la RDC et les institutions provinciales, que le gouvernement central puisse aller plus vite en besogne, comme l'a dit Thomas Lokondo, pour suspendre les activités d'une assemblée provinciale. Et c'est une mesure qui n'est inscrite dans aucune disposition légale ou constitutionnelle qui régisse ce pays. Et vous allez comprendre la question posée par votre confrère Innocent Olenga au ministre des médias chargé des relations avec le Parlement et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Le ministre, qui est un juriste de formation, se confond dans les sophismes pour dire non lorsqu'il y a menace à l'ordre public. Il faudrait que le gouvernement puisse prévenir cela. Et on parle d'une crise en gestation. Donc c'est une crise qui n'existe même pas encore. Donc ça voudrait dire que Mende se jette dans les sophismes, parce que cet ordre dont le ministre des Communications et des Médias parle, c'est la protection du fauteuil de M. Kouah Diallo, qui se trouve à l'instant dans l'incapacité ou dans l'incompétence d'exercer ses fonctions en raison de sa maladie. Parce que si crise il y a aujourd'hui, nos frères Limier d'Impact News ont été à Bandaka, ils se sont rendus compte que si crise il y a, c'est une mésentente entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Et c'est à ce niveau-là. Bon, s'il y a un problème à ce niveau-là, je crois que ce qui revient dans les prérogatives du chef de l'État, c'est la dissolution de l'Assemblée provinciale avec avis préalable de deux bureaux des deux chambres du Parlement. Ce qui n'est pas le cas. Donc, dire que c'est pour maintenir, préserver l'ordre public. Bon, bien sûr que l'Équateur se trouve à proximité avec la République centrafricaine où il se vit actuellement une crise grave, il faudrait prévenir. Mais je ne vois pas comment cette crise aurait eu des répercussions sur l'ordre public dans une province où le PPRD a fourni tous ses efforts pour ravir les fauteuils qui étaient au MLC et les conserver. Et aujourd'hui, que lui, Alphonse Kouah Diallo, ne peut pas, en raison de sa santé, gérer cette province, je crois qu'il est indiqué que l'on entrevoit les mécanismes, soit de son remplacement ou de son intérim par le vice-gouverneur, au lieu de créer les subterfuges
qui ne répondent pas, qui ne respectent pas la loi. C'est à ce niveau-là que je suis.
Ok, je reviens à vous tout à l'heure, Edouardi Chitenge. On a suivi le député Henri Thomas Lokondo qui estime que cette décision viole la constitution et la loi sur la libre administration des provinces. Comment est-ce que vous analysez cette position d'Henri Thomas Lokondo?
Il a totalement raison. Parce que lorsque tout le monde est en train d'intervenir, j'ai pris le temps de mettre la main sur la loi. La loi 08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Je suis à l'article 19 parce que aujourd'hui on veut faire croire qu'il y a crise. Mais cet article 19 est clair. L'article donne les caractéristiques en cas de crise. Il y a trois conditions. Soit, pendant 6 mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité. Soit, elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum, ou encore, au cours de 2 sessions d'une même année, le gouvernement provincial est renversé à 2 reprises. Voilà les conditions qui peuvent nous amener à parler d'une crise. Mais lorsqu'on dit qu'il y a une crise en gestation, quels sont les éléments parmi ceux évoqués par la loi ici qui sont déjà en gestation qu'on a connu dans la province de l'Équateur? Et même s'il faut qu'une intervention soit envisagée, de la dissolution par exemple. Mais qui constate, là je suis à l'article 20, c'est le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui constatent la dissolution et qui font rapport au chef de l'État qui prend alors une ordonnance. Donc dans ces cas, je suis en train de me demander, au-delà de tout ce que les confrères ont dit et tout ce que les intervenants ont dit, moi j'étais en train de me poser la question sur l'attitude actuelle des membres de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Parce que je ne sais pas, face à leurs droits, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit, tout le monde déplore l'inconstitutionnalité de cette décision, tout le monde déplore l'irrégularité de cette décision. Mais cette Assemblée, qui est une première institution de la province, face à ses droits, moi je me demande comment elle a pu exécuter à un ordre qui serait mal donné, parce que cette Assemblée est composée, à mon sens, de l'élite de cette province de l'Équateur. Mais devant cette situation que tout le monde déplore, moi je suis en train de me demander si les députés pouvaient observer, parce qu'aujourd'hui on dit qu'il y a une commission qui est descendue de ministres pour entendre, là les confrères l'ont déjà dit, on a mis pratiquement la charrue devant le bœuf, on commence d'abord par suspendre, et puis on envoie une commission, on allègue qu'il y a une crise, mais si crise il y a, on tente à troubler l'ordre public. Là, c'est encore un fourre-tout. Qu'est-ce qui caractérise ces troubles à l'Équateur? Est-ce qu'on peut donner les éléments? Et si l'ordre public peut être troublé, est-ce que c'est toute une institution? Moi, je crois que l'infraction est individuelle. Il y a des individus qui seraient peut-être en train de troubler l'ordre public. Et pour cela, il y a les cours et les tribunaux. Parce que la loi, la constitution, la loi sur la libre administration des provinces, ne prévoit rien dans cette matière-là. Est-ce pour autant qu'on prenne une décision qui ne respecte pas les textes? Non, moi je pense que dans un état de droit comme le nôtre, on doit s'en tenir aux textes. Ce n'est pas quand les textes font défaut qu'on se permette de faire n'importe quoi. Moi je pense qu'à ce stade, parce qu'on dit que c'est une décision de police, mais il y a la police aussi, la police nationale congolaise.
Merci.
Est-ce qu'on a vu des troubles sur place à l'Équateur? On n'a pas pu maîtriser la situation. Moi, je crois que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas là-bas. Les confrères l'ont dit depuis tout ce temps. Les échos
qui
nous parviennent, le vrai problème, c'est ces problèmes qui se trouvent au niveau de l'exécutif provincial.
Merci, Edouard Boudouin Saïd Mbalanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Chopo, un journal qui paraît à Kinshasa. On a essayé de relever certains points par rapport à cette situation de l'Équateur. Que peut-on alors, selon vous, faire pour résoudre cette crise qui se vit dans cette province de l'Équateur?
Mon confrère qui est à Kananga a fait allusion au respect des textes. Recadrons le débat, chers collègues, chers confrères. Recadrons le débat pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre la démarche. On dit ceci, les députés provinciaux n'ont plus mandat. Ce sont les textes. La Constitution dit que vous êtes élu pour 5 ans. Il n'y a pas un autre verbe à ajouter.
Évoluons.
Alors c'est pour cela que nous demandons à ce que la CENI puisse aller un peu vite en besogne pour limiter les dégâts.
Ce n'est pas la première fois que l'Assemblée provinciale de l'Équateur est en difficulté. Réaliser l'histoire, l'année passée, cette année-là.
Les solutions,
c'est suspendre toutes les assemblées provinciales. Elles n'ont plus le pouvoir d'exister. C'est ça la solution. Solution, suspendre les gouverneurs de province. Vous comprenez? Parce qu'ils sont au-delà des mandats tels que Moïse a déclaré dans Jeune Afrique. Que moi, Moïse, je suis élu gouverneur de la province du Katanga pour 5 ans. Aujourd'hui, je suis au-delà de 5 ans. Je suis dans l'illégalité. Voilà l'excellence. Voilà un homme responsable. Nous devons faire un effort. Il y a l'argent. L'argent est là. Les régies financières, beaucoup d'argent pour donner à la CENI d'aller vite en besogne pour que demain et après-demain, la population, toujours elle, puisse se parer le bon gré de livrer. C'est très important, chers confrères. Lorsque nous sommes devant le micro de la radio Capi, nous sommes là pour véhiculer un message vrai. Ils n'ont plus mandat. Les députés provinciaux n'ont plus le pouvoir de se réunir conformément au texte de loi.
Merci, Boudouin Saïlé Mbalanga. Joël Kadindanga, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour résoudre cette crise à l'Équateur?
Non, avant d'apporter les solutions, il faudrait apporter une mise au point par rapport à l'intervention de l'aîné. Il faut distinguer la légitimité de la légalité. Par rapport à la légitimité, les députés provinciaux avaient reçu mandat du peuple de 5 ans. Et la légalité, donc par rapport à la légitimité, ils sont illégitimes, ils ne peuvent plus engager leurs électeurs dans la mesure où ils ont déjà dépassé ce mandat ici. Mais par rapport à la légalité, vous l'avez dit, que les institutions restent en place jusqu'à l'élection ou à l'installation de nouvelles institutions. Alors c'est par rapport à ça qu'ils sont encore en train de s'exécuter et de répondre au mandat jusqu'à l'installation de nouvelles institutions. Et par rapport à ça, je voudrais souligner qu'il y a irrégularité, illégalité dans la mesure prise par le gouvernement central de la RDC et en conséquence comme solution, il faudrait que le bureau de l'Assemblée provinciale, parce que le même jour là où la mesure a été prise ici par le Conseil des ministres, le même jour il y avait réunion de présidents. Il y avait la conférence des présidents de groupes parlementaires. Alors, et il n'y avait aucune crise au niveau de l'organe délibérant. Si crise il y a, je le répète, c'est au niveau de l'exécutif provincial. Alors, si le président du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est responsable, il doit saisir la Cour suprême de justice dans sa section de la Cour constitutionnelle pour attaquer en inconstitutionnalité cette mesure qui ne cadre ni avec la loi, ni avec la Constitution. Voilà la solution. Et à cela, nous invitons le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre qui a commis cette gaffe, de rebiffer cette mesure parce qu'elle viole et la Constitution et toutes les lois relatives à la décentralisation des entités. Et donc, voilà un peu la solution que nous pouvons proposer à ce niveau.
Edouard Di Chitenge, nous terminons ce sujet avec vous. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour résoudre cette crise de l'Équateur?
Je crois que le confrère l'ont déjà dit, mais je vais peut-être apaiser Baudouin au-delà de ce que Joël a dit, que nous sommes en train d'évoluer. Je crois qu'il y a eu des concertations nationales qui se sont tenues dans notre pays. Cette question a été soulevée et une solution a été proposée. Donc maintenant, en évoluant comme proposition, moi je pense qu'un ordre mal donné ne s'exécute pas. Du fait qu'il faut d'abord suspendre les activités de l'Assemblée, moi je crois que là, on a exécuté un ordre qui est mal donné. Peut-être c'est ce que dit Joël, il faut saisir les cours et tribunaux. Je n'en disconviens pas, parce que je sais que nos assemblées ont été déjà fragilisées. Vous savez dans quelles conditions vous prenez la configuration initiale de cette Assemblée provinciale de l'Équateur. Elle était vraiment assise à l'opposition, elle a fait passer même le gouverneur. Du coup, il y a eu changement, et c'est la majorité qui commence à être à la tête. On sent que les députés n'ont plus vraiment de force. Parce que s'ils étaient très forts, ils allaient réclamer leurs droits, c'est que ne pas exécuter un ordre mal donné. Parce que si on pouvait demander au ministre de communication de revenir sur la lecture de leurs décisions, je doute fort qu'il y ait des dispositions légales qu'ils puissent évoquer. Et là, en tant que journaliste, par moment, je me permets d'attaquer certaines décisions quand je vois qu'on n'évoque aucune disposition légale. Parce qu'à partir de ce moment-là, je sens qu'il y a beaucoup de faiblesses, on peut attaquer, même si je n'ai pas encore fouillé là-dedans. Alors ce qu'il faut faire, c'est convoquer une plénière, parce que là, le pouvoir central est en train de dire tout haut ce que les gens disent tout bas, donc on sent qu'il est en train de retenir un peu la décentralisation. On ne reconnaît pas l'autonomie des provinces. Quand on attaque la première institution d'une province, moi je sens que c'est une provocation, c'est la preuve à outrance que l'on ne veut pas libérer la décentralisation. Parce que le vrai problème, tout le monde le dit, tout le monde le sait aujourd'hui, que le vrai problème c'est cette crise-là. On ne doit pas empêcher les députés de constater, par exemple, l'incapacité du gouverneur.
Merci.
C'est leur façon de travailler, on ne doit pas les empêcher de faire partie de quelqu'un par une motion s'il constate qu'il est incapable, il ne sait pas travailler. Alors, parce qu'il appartient à une classe politique, il faut qu'on arrête tout, parce que si on continue de la sorte, on va perdre là, ça ne va pas.
Merci Edouard Di. Nous passons directement à notre deuxième sujet de ce soir, consacré au déraillement du train de la SNCC à Kamina. Une trentaine de morts et 55 blessés graves, c'est le bilan provisoire du déraillement mardi dernier d'un train marchandise de la Société nationale de chemin de fer du Congo. L'accident a eu lieu non loin du pont Katongola, à une soixantaine de kilomètres de Kamina, dans le Katanga. Selon les témoignages recueillis par notre reporter Hippolyte Kalenga de la radio communautaire du Katanga, qui s'est rendu le même jour sur le lieu de l'accident, ce train partait de Kamina vers Mweneditu, dans la province du Kasaï oriental. La vitesse serait à la base du déraillement. Suivons ce reportage.
La locomotive 2201-4, appelée communément Matata Ponyo, mais aussi une dizaine de wagons complètement détruits, restent couchés à près de 3 mètres de rail. Juste à côté, 31 corps sont rangés, les uns à côté des autres. On compte parmi les victimes 55 blessés graves couchés et certains gémissants. Selon les chefs de poste d'encadrement administratif de Katongola, tous réguliers, d'autres corps auraient été emportés par les membres de leur famille sur ordre du magistrat envoyé par le parquet de Kamina. Près de 4 heures après l'accident, on pouvait encore voir les bras ou encore les jambes de quelques personnes mortes dont les corps restent coincés dans ceux qui restent de wagons. À l'intérieur des conteneurs, quelques individus réclament du secours qui n'arrivent malheureusement pas. Selon certains témoins, un véhicule de la SNCC est resté stationné à 3 km du lieu de l'accident à cause de son inaccessibilité. Seulement, 4 blessés y ont été conduits sur les dos par des frères. Les marchandises restent éparpillées ça et là, le long du rail. Depuis le lieu de l'accident, Hippolyte Kalenga, Radio Commerciale du Katanga pour Radio Okapi.
Pendant ce temps, au sud Kivu, les conséquences de la grève des armateurs continuent de se faire sentir. Une barge toujours de la SNCC, avec environ 80 personnes à bord et plus d'une centaine de tonnes de marchandises, a fait naufrage mercredi dernier près du village de Birédé, situé entre Idjou Nord et sud. Selon le capitaine de la barge, on ne déplore pas des pertes en vies humaines, mais la barge a perdu toute sa cargaison de marchandises, dont une partie a été pillée par les riverains. Les détails avec Astrid Mujinga.
La barge, lourdement chargée, est partie du port de Goma au nord Kivu vers les après-midi hier mardi en direction de Bukavu au sud Kivu. En plus des 115 tonnes constituées de marchandises, des produits vivriers, il y avait également à bord une cinquantaine de passagers et leurs bagages et une trentaine de personnes faisant partie de l'équipage. C'est vers 4 heures du matin que le secrétaire exécutif de la SALAC Sud Kivu a reçu un premier SOS en provenance de la barge en détresse. Et c'est depuis cette heure-là que le capitaine et son équipage ont commencé à lutter contre les vagues pour essayer d'atteindre la côte. Ceci pour sauver les passagers. Tous les passagers sont donc sortis indemnes du naufrage et attendent d'être évacués vers Bukavu. Quant à la cargaison, elle a coulé à plusieurs mètres de profondeur. Le reste, c'est-à-dire ce qui flottait sur le lac, les habitants du village de Birédé, où le naufrage a eu lieu, s'en sont accaparés. Ainsi donc, pour le capitaine de la barge, ce sont les vagues qui sont à la base de l'accident. Mais certains rescapés évoquent la surcharge, étant donné que la grève des armateurs continue. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Signalons que selon le témoignage d'un commerçant rescapé de l'accident, ils étaient nombreux à embarquer sur cette barge. Quant à la cargaison, elle était constituée de produits vivriers, manufacturés et autres. Ce commerçant dit avoir perdu à lui seul une marchandise d'une valeur de $600 américains. Selon toujours ces derniers, cet accident serait dû à la forte vague rencontrée sur les lieux du lac. En outre, la barge appartenant à l'État et qui date de plusieurs années, était déjà dans un état de vétusté avancée. Baudouin Saïlé Mbalanga, c'est vraiment regrettable cette situation. Comment est-ce que vous l'analysez?
Froidement, peut-être avec découragement, mais l'espoir est là. Je dis ceci, la NCC, le chemin de fer de Zouélé, l'ex-Onatra, l'ex-Erzaïr, ce sont des compagnies qui appartiennent une compagnie de transport qui appartiennent à l'État congolais responsable. Et à ma connaissance, ce sont de vieilles machines qu'on doit nécessairement les changer. J'apprends que d'ici là, l'ex-Sonatra va acquérir deux têtes de train pour le transport urbain et le transport entre Kinshasa et Matadi. Bravo. Alors, il est nécessaire et indispensable que le ministère des Transports fasse le tas des lieux de toutes ces vieilles machines-là.
Mais on se rappelle dernièrement que, en fait, la SNCC avait reçu un lot de matériel.
Mais il paraîtrait que l'accident qui a eu lieu là-bas à Likasi, cela est dû à la surcharge. Il n'y a pas de wagon pour transporter les voyageurs. Tout le monde est confondu dans les wagons à marchandises. Il y a même des clients qui sont au-dessus du wagon là-bas. Vous comprenez? Lorsque on dépasse tout attendement, le conducteur fatigué par l'âge, on doit songer à remplacer les conducteurs de ces trains-là. On doit, comme aujourd'hui, j'apprends que l'État va créer une nouvelle société d'aviation nationale qu'on appelle Congo Airways, je crois bien. On doit renouveler le personnel. On doit renouveler l'espace aérien. On doit mettre les voyageurs qui prennent les avions entre Kinshasa, Kisangani, Kinshasa, Équateur, les Kassai, tout ça, dans de très bonnes conditions. L'État peut acheter des avions à crédit. L'État peut faire des commandes, je ne sais pas moi, des trains de 700 à crédit, des trains de longtemps à crédit, pas toujours du cash, vous comprenez? Alors, si j'apprends que hier, il y a eu plus de 200 morts sur le lac Albert dans l'Itourie, et j'apprends aujourd'hui autant de morts à gauche à droite, en tout cas, nous devons faire un effort pour rectifier les filles, pour retirer les tirs, afin qu'il n'y ait pas de bordéon quelque part. Je suis confiant en l'avenir.
Joël Kadintanga, comment est-ce que vous analysez ce drame humanitaire qui vient de frapper ces deux provinces du Katanga et du Sud-Kivu?
Bon, d'abord, avec beaucoup de tristesse, tout en profitant de l'occasion du micro que vous m'accordez, je présente mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Toutefois, au niveau du cabinet du ministre des Transports et Voies de Communication, on dit halte à l'exagération. Il ne faudrait pas qu'on puisse exagérer sur le nombre des victimes, comme s'il s'agissait d'une surenchère politique, et il ne faudrait pas non plus qu'on puisse exagérer sur les causes de ce drame qui vient frapper, encore une fois de plus, la RDC. L'aîné venait tantôt de le dire, les larmes pour les expulsés de Brazzaville sont encore à nos yeux, les larmes pour les naufragés du lac Albert sont encore à nos yeux, le larme encore, mais pour les 25 personnes qui viennent d'être tuées dans une bousculade à Kikuit sont encore à nos yeux. Il faudrait qu'on évite toute exagération et attendre les résultats de la mission d'enquête technique diligentée par le ministère des Transports et Voies de Communication pour détecter les vraies causes, parce que la personne qui pouvait bien sûr nous donner les vraies causes de cet accident est partie, a été emportée dans cet accident, le machiniste, et il faudrait alors attendre que la mission d'enquête puisse nous fixer sur la question. Toutefois, contacté par notre rédaction, M. Fernandez Chibondo et M. Rachidi Akida indiquent par ailleurs la vétusté des locomotives dont la date de fabrication remonte à 1963 et il faudrait retirer cette série de la circulation, a-t-il exhorté, afin d'établir les responsabilités. Parce que la même locomotive qui vient de faire l'accident a fait un tamponnement le 27 décembre à Dilolo. La même situation a été constatée à Kalemie avant de faire le déraillement à Nyunzu. Alors, pour cette raison, il faudrait en principe, si nous étions dans un pays responsable, le Premier ministre qui a procédé avec pompe à l'inauguration de ces locomotives devrait en principe démissionner, parce que même la locomotive est appelée en son nom, et par honneur à son nom, par dignité, par réputation pour son nom, il devrait en principe démissionner, parce que on ne peut pas comprendre que les gens puissent mourir comme ça dans un pays où on compte des morts par-ci par-là. À un moment donné, il faudrait se poser la question, évaluer son action et tirer les conséquences qui s'imposent.
Merci Joël Kadindanga. Je rappelle que dans 5 minutes, nous allons terminer cette émission. Edouardi Tshitenge, il se pose vraiment un problème de transport dans notre pays, car comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un train qui est destiné à transporter des marchandises peut aussi transporter des personnes humaines sans le moindre respect de la vitesse ni du tonnage? C'est pas quand même curieux cela?
Très curieux. Ça fait mal que la semaine passée on avait parlé larmes aux yeux. Aujourd'hui, on est encore en train de parler larmes aux yeux. Ça fait très mal. Je ne sais pas s'il faut parler dans ces pays de contrées qui sont enclavées. Je veux dire, tous les pays sont vraiment enclavés. C'est ça qui fait que pour se déplacer, c'est un problème. Toutes les voies de communication posent un problème. Lesquelles ces rares de voies de communication qui nous restent provoquent des grands engouements, ce qui fait que les gens en parle de la surcharge. Mais il y a un élément très important, c'est la vétusté de nos machines, la vétusté de voies, parce que dans ces cas, nous parlons de la voie ferrée et de la barge, la voie fluviale. Donc, pour la voie fluviale, je dirais, c'est la vétusté de cette barge. Parce qu'on l'a dit dans certains des commentaires, cette barge est vieille, je ne sais de combien d'années, et de surcroît, il y a un problème de la grève des armateurs. Pourquoi? Parce que on a imposé une taxe. Je me demande pour qui on est en train de gouverner. Quand vous imposez une taxe, les gens ne veulent pas. Ils déclenchent un mouvement de grève, ça ne dit rien. Il faut attendre qu'il y ait encore des gens qui soient d'abord noyés. Je ne sais pas maintenant que des commissions sont descendues, c'est alors qu'on va trouver des solutions. Revenons maintenant par rapport au déraillement. Là, il y a un problème de vétusté de machines, locomotives, vétusté même de la voie. Parce qu'aujourd'hui, les locomotives que nous avons, pour prendre les propos de Joël qui a dit, date de 1963. Même si on peut colorer bien ces locomotives quand on nous les vend. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec quelqu'un qui venait avec le projet de transport multimodal. Vous savez, la voie ferrée, ravitaille la province du Kassai occidental. On a posé la question de savoir ce qu'il fallait faire. On a connu même un spectacle qui va peut-être vous faire rire. On a connu un gouverneur dans cette province qui nous a présenté une locomotive prise en location, une vieille locomotive. On a fait avec pompe, on a présenté la locomotive pour dire que c'était une acquisition de notre gouvernement. Par la suite, c'était Shelton qui avait fait louer et on a récupéré la locomotive. Il fallait d'autres démarches pour récupérer. Là, quelqu'un m'a dit que pour acheter une locomotive neuve aujourd'hui, passer la commande, décaisser les fonds, à partir du moment où on a décaissé les fonds, il faut attendre 2 ans. Mais toutes les locomotives qu'on achète aujourd'hui dans la précipitation, avec l'évolution de la technologie, rassurez-vous qu'on nous vend des vieilles locomotives et nous aurons toujours des problèmes.
Merci Edouardi, je considère celui-ci comme votre conclusion. Baudouin Saïd Mbalanga, que faut-il pour éviter ce genre de drame à la longue? En une minute, bien sûr.
Soyons responsables, achetons des avions pépins neufs, achetons des locomotives neufs, arrangeons les rails, balisons le fleuve Congo. Il y a des experts dans ce domaine au ministère des Transports. Ils sont là. Ils sont capables de beaucoup de choses. Et ils doivent être motivés pour arriver à faire un bon travail, à ce que je sache. Mais j'insiste à ce que toutes les assemblées provinciales soient dissoutes. Elles sont déjà au-delà de leur mandat, c'est clair.
Merci Baudouin Saïd Mbalanga. Joël Kadine Danga, nous terminons cette émission avec vous. Pour éviter ce genre de drames humanitaires, qu'il faut-il faire à la longue?
Lems Kamoigna, directeur du cabinet adjoint du ministre des Transports et Voies de Communication, a souhaité que nous attendions le résultat de l'enquête de la mission technique. Et c'est parce que cette mission a été diligentée pour non seulement donner les causes et les raisons de cet accident, mais aussi et surtout proposer les pistes de solutions de manière que tel cas ne puisse plus revenir. Je crois qu'il y a lieu que nous attendions tous, parce que comme le ministère des Transports et Voies de Communication a pris l'engagement de nous dire la vérité, nous devrions attendre les solutions et pistes qui nous seront proposées par la mission technique diligentée sur les lieux. Mais j'ai rejoint l'aîné pour que le chef de l'État puisse dissoudre toutes les assemblées provinciales, parce qu'il n'y a pas de problème qu'à l'Équateur, et il y a eu aussi des problèmes dans la province du Kassai occidental, où les gens se sont battus, chez notre confrère, les députés se sont battus, mais jamais il n'y a eu une mesure de suspension des activités.
Je vous remercie, et c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission Tribune de la Presse, qui vous était présentée par Samuel Kachak. Paul Badianyama était à la technique, et Kelly Kouté à la réalisation, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Je rappelle que je recevais dans cette émission Baudouin Saïd Mbalanga, éditeur du journal journal La Chopo, un journal qui paraît à Kinshasa, Joël Kadindanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, et Edouard Di Chitenge, journaliste, reporter et directeur de la station de radio-télévision Kasaï Horizon, émettant depuis Kananga au Kasaï Occidental. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.